Trafic est un software open source populaire, aussi bien pour sa simplicité d'utilisation que pour ses fonctionnalités. Et si vous ne le connaissez pas encore, je vous encourage vivement à écouter l'épisode 9 de ce podcast sur Trafic et Mesh. Mais aujourd'hui, ce n'est pas tellement du produit que nous allons parler, mais du parcours d'un homme parti d'un projet open source et qui, au fil du temps, a créé une entreprise à la renommée internationale. Cet homme, c'est bien entendu Émile Vosges, fondateur et CEO de Trafic Labs, et ensemble, nous retraçons son parcours, des débuts de Trafic jusqu'à aujourd'hui. Bonjour, bienvenue.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Ça me fait très plaisir de t'avoir. J'avais déjà reçu Mickaël il y a bien longtemps de ça. Pour moi, en tout cas, c'était dans les premiers épisodes pour parler un peu de Trafic.
Ouais, tout à fait, ouais.
On est un an plus tard et puis il se passe plein de belles choses dans l'écosystème. Il se passe plein de belles choses chez Trafic aussi.
Ouais, tout à fait.
Il y a eu notamment le rebranding en Trafic Labs. Donc, alors, revenons un peu sur l'histoire de Trafic et pourquoi, en fait, tu as créé Trafic ?
Alors, ça commence à faire un moment, mine de rien. Le temps passe très vite. Du coup, c'était en 2015, donc il y a un peu plus de 6 ans. À ce moment-là, j'étais... à l'époque, je travaillais sur des microservices, sur des plateformes de microservices. C'était vraiment, les microservices, c'était quelque chose d'assez nouveau à l'époque. Il n'y avait pas tant d'outillages que ça disponibles. Docker démarrait, était loin d'être stable. Il y avait deux, trois trucs par-ci par-là qui avaient émergé, Mesos, Marathon, ce genre de choses. Mais bon, Kubernetes n'existait pas, Istio, n'en parlons pas. Enfin, plein de choses n'existaient pas encore à cette époque-là. Et bref, je travaillais sur une plateforme de microservices qui hébergeait des milliers de microservices. Donc, quand on commence à parler de ce nombre, bien évidemment, rien de manuel n'est possible. Tout doit être automatisé. Et à l'époque, je cherchais à automatiser l'exposition sur Internet ou l'accessibilité depuis Internet de ces microservices. Donc, c'est tout bête, mais comment on accède à tel microservice parmi des milliers depuis Internet ? Et il n'y avait pas grand-chose qui existait, malheureusement, à l'époque. Il fallait faire beaucoup de choses. Il fallait faire des usines à gaz avec les briques existantes. Donc, c'est comme ça que je me suis dit, est-ce qu'on ne pourrait pas travailler sur une solution un peu plus intégrée avec les environnements existants, typiquement Docker, typiquement Mesos Marathon, ou typiquement, à l'époque, il y avait des bases de données clés valeurs qu'on utilisait pas mal, style etcd, consul, etc. C'est comme ça que tout est parti, que l'idée est partie en tout cas. Et donc, ça c'était en 2015. J'ai commencé à travailler de mon côté sur ce projet. C'était vraiment un side project, hein, un truc que je faisais le week-end chez moi. Et au final, je suis arrivé à quelque chose que je trouvais sympa. Donc, je l'ai open sourcé sur GitHub. Et ça, c'était en septembre 2015, si je ne me trompe pas. Et c'était Trafic, voilà. Et en un jour ou quelques jours, en tout cas, c'est passé de projet qui n'intéressait que moi à surprise. Ce projet intéresse d'autres personnes. Et voilà, ça a été un sacré changement.
J'imagine. Je l'avais découvert un tout petit peu plus tard, vers 2016 pour ma part. Mais je vais te dire que même pour 3 microservices, je suis très heureux que ça se passe automatiquement.
J'imagine, ouais. Il n'y en a pas besoin de beaucoup pour qu'on ait envie d'automatiser, quoi, c'est clair.
Alors, de la création d'un projet open source à une société, il y a quand même beaucoup, beaucoup de marches à franchir. Alors, tu me dis, il est populaire en 2015, immédiatement, dès que tu le proposes. Donc, ça veut dire qu'il y a une communauté qui s'est créée autour. Quand j'entends communauté, c'est pas juste des utilisateurs, c'est d'autres personnes qui ont voulu participer au projet.
Ouais, exactement. Alors, C'est marrant parce que même juste avant que je le rende public, enfin que j'en parle en fait, comme je travaillais sur GitHub de manière transparente, j'ai un copain qui l'a remarqué parce qu'il regardait ce que je faisais sur GitHub. Et ce copain, c'était Vincent Demester et il était mainteneur sur Docker à l'époque déjà. Et donc voilà, lui, il a, même avant que ce soit publié, enfin rendu public en tout cas, il a commencé déjà à m'aider à maintenir le projet. Il a mis en place des trucs fous, tout un framework de tests automatisés, etc. Enfin bref, il a vraiment fait un boulot de dingue au début. Et en fait, dès le début, voilà, il y a déjà eu un mainteneur avant que ce soit publié. Et à partir du moment où ça a été rendu public, là, ça a été beaucoup plus rapide. Effectivement, il y a eu des pull requests externes très 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 rapidement, et c'est devenu très rapidement presque ingérable. c'est-à-dire que, le nombre de pull requests, plus le nombre d'issues, plus le nombre de personnes qui venaient sur Slack en parler, etc., est devenu très rapidement très important. Et donc, l'équipe de mainteneurs a grossi vraiment assez rapidement, quoi, au final. Donc, en quelques mois, il y avait déjà, je dirais, 3-4 personnes dans l'équipe de mainteneurs, et c'était des personnes qui étaient vraiment actives, quoi. Voilà. Donc, des personnes qui, il n'y avait pas un jour sans qu'ils viennent interagir d'une manière quelle que ce soit sur le projet, quoi. Voilà.
Ok. Et donc, tu travaillais pour une autre compagnie à l'époque, et c'était un side project, comme tu l'as dit. Je me posais la question de savoir quand on a un projet qui devient populaire et on n'est peut-être pas... Alors, je sais pas, ta familiarité à l'époque avec le monde de l'open source et si tu avais déjà beaucoup participé, mais un projet qui est populaire, évidemment, ça va faire énormément de bruit, comme tu le dis, des pull requests, des issues, etc., etc. Ça veut dire que assez rapidement, faut pas seulement avoir des mainteneurs, pas seulement avoir de l'automatisation, faut avoir une gouvernance au-dessus de tout ça.
Ouais, tout à fait, ouais. Ce que j'ai choisi de mettre en place, il y a plein de stratégies différentes, hein, franchement. Moi, j'ai choisi une stratégie qui était je veux maximiser le côté ouvert. Je veux maximiser le nombre de mainteneurs extérieurs sur ce projet. Voilà, je veux qu'il y ait le plus de mainteneurs possible. Je veux qu'il y ait le plus de gens qui soient impliqués, qui aient envie de s'impliquer. Je veux vraiment maximiser ça. Il y a d'autres stratégies, parce que ça a des pour... ça n'est pas que simple de faire ça. Ça n'a pas que des côtés positifs, je veux dire. En tout cas, c'est celle que j'ai choisie. D'une part, parce que j'étais seul, et du coup, stratégiquement, si je voulais que le projet décolle réellement, ben, il fallait de l'aide, hein, tout simplement. Et donc, pour ça, j'ai rendu l'accès à être mainteneur extrêmement simple. Vraiment, c'était la philosophie. C'était si vous souhaitez être mainteneur sur Traffic, vraiment, il n'y a pas 36 étapes qu'on va vous demander de faire X pull request, d'avoir déjà d'avoir une connaissance de telle partie du code ou je ne sais pas quoi. Enfin, il n'y avait pas tout ça. Ou participer au projet depuis tant de temps. Non, il n'y avait pas toutes ces contraintes-là, pas tous ces requirements. C'était assez simple. À partir du moment où quelqu'un souhaitait s'impliquer, on croyait sur parole, entre guillemets. En tout cas, on lui faisait confiance, on lui donnait les clés, et boum, il était mainteneur s'il le souhaitait, s'il avait interagi quelques fois sur le projet, quoi. Voilà, tout simplement. Bon, ça, c'est la gouvernance que j'ai choisi de mettre en place, ce qui a plutôt bien marché, franchement, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui se sont impliqués de manière très forte, des gens qui travaillaient dans d'autres entreprises et qui ont vraiment fait évoluer le projet de manière très importante au début, quoi. Donc ça a été un catalyseur vraiment important au départ du projet.
J'imagine. Voilà. Cela dit, question qui me vient en tête, puisque évidemment, je n'ai pas connu ça, mais j'ai l'impression aussi que tu donnes les clés du royaume à qui veut bien participer. Comment tu fais pour ne pas être dépossédé de ton projet? Qui décide de la stratégie adoptée, vers où on va et des choses comme ça?
Alors, après, c'est pas parce qu'on dit, enfin, comment dire, être mainteneur, ça ne veut pas dire décider de tout, loin de là. Et non, ça veut dire on participe, enfin, ça veut dire que quand on est mainteneur, on peut participer à la stratégie, aux grandes décisions, mais ça ne veut pas dire que les gens sont, enfin, font ce qu'ils veulent et peuvent tout casser, quoi. Non, c'est quand même pas l'objectif. Ça a toujours été un projet très collaboratif. Et donc, bah, toutes les grandes décisions de gouvernance et de stratégie, forcément, j'étais pas complètement dépossédé. Non, j'avais largement la main dessus. Et puis, de toute façon, pour un projet jeune, enfin, personne n'aurait eu l'idée de prendre une énorme décision sans m'en parler. Enfin, c'était quand même dans la logique des choses. Et moi, c'est pareil, j'aurais jamais pris une énorme décision seule sans en parler à personne. Enfin, donc c'était. Mais ça se construit. Enfin, ce genre de, comment dire, de gouvernance qui est vraiment collaborative, ça se construit avec le temps. Et puis, en fait, il n'y a même pas forcément besoin d'écrire des règles parce que tout est logique, quoi. Enfin, ouais, voilà, ça a été très collaboratif pendant pas mal de temps, au début, et je pense que beaucoup de mainteneurs s'y sont retrouvés très vite, quoi.
Le fait d'avoir eu beaucoup de mainteneurs et d'accepter assez largement ce que pouvait proposer la communauté, ça a évité aussi qu'il y ait des forks, j'imagine.
Alors oui, ça a évité qu'il y ait des forks. Après, bon, j'avoue que je craignais pas spécialement ça parce que c'était un projet qui débutait. Donc, enfin, au début d'un projet comme ça, on craint pas forcément ça. Mais effectivement, c'est clairement à long terme avoir une stratégie ouverte. Bah, évidemment que ça évite les forks. En tout cas, ça permet de baisser la probabilité que ça arrive, quoi. Ça, c'est clair, c'est mathématique. Plus un projet va avoir une gouvernance fermée et plus la communauté va avoir l'impression que les décisions se feront de manière complètement détachée de eux, plus les forks seront probables.
Donc on est en 2015, tu as un projet d'un reverse proxy dynamique en open source. Comment après t'es venu l'idée de créer ta boîte? Parce que ça, c'est un autre gros pas à franchir.
Ça, c'est un mélange de choses. La première chose, toute simple, c'est quand un projet open source se met à fonctionner comme ça, avec une certaine viralité, du jour au lendemain, ça demande beaucoup, beaucoup de temps pour s'en occuper. Donc, à ce moment-là, enfin, je le redis, mais à ce moment-là, moi, je travaillais dans une autre société. Clairement, j'ai passé mes soirs et mes week-ends entiers, quoi, pour juste maintenir le truc à flot. Parce que c'est vraiment, le nombre d'interactions qu'il y a, si on veut vraiment que ça avance, faut être là, quoi, tout simplement. Sinon, soit ça part dans tous les sens, soit le projet finit par s'éteindre parce qu'il manque l'étincelle de départ, quoi. Voilà. Et donc voilà, tout simplement, c'est le besoin de créer une société. En fait, il est venu du besoin que je devais y passer toutes mes journées. Et donc, il est venu du besoin que je devais quitter mon job du moment et juste y passer mes journées. C'est le choix que j'ai fait. Je me suis dit, c'est le seul moyen pour que ce projet avance vite et donc vive une aventure, quoi. Voilà. Et de l'autre côté, évidemment, il y avait le côté personnel. C'est quand même une aventure. C'est quelque chose que j'avais pas prévu. C'est un truc un peu fou qui arrive. C'est à la fois une opportunité. Ça fait un peu peur. On ne sait pas ce qui va se passer. Enfin, c'était pas moi. J'avais pas ça du tout en tête, hein, évidemment, à l'époque. Mais je l'ai fait parce que c'était rigolo, pourquoi pas? Les risques sont pas vraiment grands, sont pas énormes, ça marche pas, c'est pas grave. Ce que je me suis dit à l'époque et ce que je me dis toujours, c'est, enfin, si on a l'opportunité, ça vaut le coup de vivre un truc rigolo, un truc différent, quoi. De
Ouais.
toute façon, et alors, qu'est-ce qu'on risque?
Bah justement, qu'est-ce qu'on risque? Comment ça se passe? À la base, donc, tu es développeur et puis tu as un outil sympa. Et du jour au lendemain, tu décides de faire une boîte. Mais faire une boîte, ça veut dire, à minima, être tout seul sur son payroll ou d'avoir plus de personnes. Est-ce que tu es parti sur une levée de fonds? Est-ce que tu pensais déjà à avoir quelque chose qui pourrait se vendre à côté de la version open source? Comment ça s'est passé?
Alors, c'est pareil, là, il y a plein de possibilités, stratégies différentes. Il n'y en a pas forcément une qui est meilleure que l'autre. Mais moi, j'ai choisi un chemin que j'ai pensé le plus adapté à ce que je faisais. Bon, déjà, il faut savoir que je n'avais aucun moyen spécialement. Je n'étais pas riche, voilà, ce qui est une donnée importante. Quelqu'un qui a de l'argent, en tout cas qui a du capital déjà, bah, forcément, il peut bootstrap un projet d'une manière complètement différente. C'est un point. C'était pas mon cas du tout. Moi, il fallait que déjà je trouve un moyen personnel de continuer à vivre. Bon, ça c'est une chose. Et deuxièmement, la question se pose de savoir est-ce qu'on veut faire grossir le business de manière complètement organique ou est-ce qu'on veut est-ce qu'on accepte de faire grossir en faisant des levées de fonds ou en tout cas avec des investissements externes? Et dans cette optique-là, on peut aller plus vite éventuellement, mais effectivement, on va perdre du pouvoir. Il y a toujours plein de possibilités. Le côté complètement organique, c'est plus ou moins possible. Hein. Ça dépend des industries, ça dépend du produit, ça dépend plein de choses. Bon, en vrai, avec de l'open source, avec du soft open source dans l'infrastructure, honnêtement, c'est chaud. C'est chaud de se dire on va faire grossir une société qu'en organique, sans investissement externe. C'est vraiment très difficile. Parce qu'avant de faire assez de chiffre d'affaires pour pouvoir embaucher quelqu'un ou même pour pouvoir embaucher au moins une personne, il va se passer pas mal de temps. Donc, le taux de croissance va être très, très faible, quoi. Le problème, il est on est dans un écosystème qui bouge ultra vite versus mon taux de croissance est très faible. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que mon projet va tenir la route, va tenir la croissance qu'il doit tenir par rapport à l'écosystème? Probablement pas. Parce qu'en face, qu'est-ce qu'il y a? Il y a toutes les startups de la Silicon Valley qui font des levées de dingue et qui ont une croissance de dingue, qui ont une force de frappe complètement différente. Et ben voilà, c'est tout. Le monde, l'écosystème est drivé, mine de rien, par ça. L'écosystème open source est vraiment de plus en plus drivé par le monde des startups, le monde financier, du coup, aussi, qui est derrière tout ça. Et donc, forcément, mon choix s'est tourné vers des investissements externes, et notamment ce qu'on appelle des VC, des venture capital. C'est typiquement les investisseurs qui financent des startups. Ça permet quoi? Ça permet, on leur donne des actions de la société, donc ils ont un certain pouvoir de décision, slash ils possèdent une partie de la société, et en échange, ils donnent de l'argent qui nous permet d'investir et d'accélérer et de recruter. Voilà.
Mmh. Mais alors, pour avoir une levée de fonds, j'imagine aussi qu'il faut avoir une stratégie commerciale derrière. Comment tu as établi cette stratégie? Comment tu as pensé à avoir peut-être une édition open source et une édition commerciale de ton produit?
Tout à fait, il faut avoir une stratégie commerciale, il faut avoir une vision du produit, de ta société, du marché, c'est tout un ensemble de choses pour lever de l'argent auprès d'investisseurs. Il faut qu'ils aient confiance, tout simplement. Il faut qu'ils comprennent que là où ils mettent de l'argent, il va se passer quelque chose, quoi. Voilà. Bon, du coup, comment j'en suis venu là? Pourquoi j'ai choisi cette stratégie? Ce que j'ai présenté, c'est une stratégie open core. Quand on fait de l'open source, on n'a pas 50 000 stratégies pour la monétiser. Dans les grandes lignes, il y a du SaaS, Software as a Service, il y a du Open Core, il y a du Service, du slash support. Et en gros, quand on a dit ça, on a à peu près fait le tour, quoi. Évidemment, il y a quelques exceptions, mais en gros, c'est à peu près ça. Le service support, c'est facile et c'est, enfin, c'est facile. Ça se fait facilement. C'est pas super risqué parce qu'il y a en général assez rapidement de la demande par les entreprises pour ça, qui ont besoin d'aide tout simplement pour mettre en place le produit ou dans l'écosystème, enfin comment dire, d'aide pour mettre en place des produits de l'écosystème en général ou qui ont besoin de support. Ça se passe assez rapidement. Le problème de ça, c'est que c'est difficile de passer à l'échelle, c'est difficile de scaler. En tout cas, c'est coûteux. Voilà. En gros, il faut il faut faire grossir l'équipe très rapidement pour faire du service. C'est-à-dire que c'est quelque part, c'est l'équipe, le produit, quoi. Voilà. Donc c'est tout à fait possible. Il y a plein de sociétés qui ont commencé comme ça ou qui vivent là-dessus. Moi, c'est pas ce que j'ai choisi parce que ça demandait énormément d'investissement au niveau équipe au départ. Moi, j'ai choisi OpenCore. C'est assez classique aussi pour démarrer. En gros, on construit une version pas forcément open source par-dessus la version close open source du coup. Donc on construit un autre produit par-dessus le produit open source qui vient avec des fonctionnalités spécifiques qui vont elles être payantes. Voilà, et donc on va vendre juste un produit aux entreprises avec des fonctionnalités qui seront pas disponibles dans la version open source. Voilà. Donc nous on a choisi ça, j'ai choisi ça, c'est ce que j'ai vendu comme stratégie et bien plus tard effectivement c'est ce qu'on a fait à Traffic Labs. On a sorti Traffic Enterprise qui est une version basée sur la version open source Traffic du coup, mais qui vient avec des fonctionnalités supplémentaires autour de la sécurité, tout ce qui est access control, certificate management, etc. Autour de la haute disponibilité et de la résilience. Et ça vient aussi avec du support inclus parce que toutes les sociétés ont besoin de ça. Si jamais il se passe quelque chose, si jamais il y a le feu dans la production, il faut être capable de dire on sera là, on vous aidera 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, quoi, si jamais.
Et alors, justement, pour pouvoir faire de l'open core, il faut aussi connaître le besoin des entreprises par rapport à la solution. Donc, comment tu captures... Soit c'est des briques un peu classiques. On va dire qu'on est une société que, évidemment, on veut de la sécurité, on veut de l'authentification. Ou alors, c'est typiquement quelque chose que certaines sociétés ont réclamé assez tôt du côté de Traffic. Comment tu as choisi justement quelles étaient les fonctionnalités que tu allais réserver à une offre qui soit open core?
Du coup, ça fait alors la stratégie open core. Donc toute stratégie a des avantages et des inconvénients. Et les inconvénients de la stratégie open core, c'est justement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire à un moment donné, on va se retrouver avec le choix cornélien de dire telle fonctionnalité, elle est très demandée. Ça peut être par la communauté, par exemple. Est-ce qu'on va la mettre dans la version communautaire ou est-ce qu'on la met dans la version commerciale? Ce choix cornélien, on y arrive toujours. Peu importe comment on segmente les produits, peu importe comment on architecture les produits, enfin, on y arrive toujours. et c'est loin d'être simple. Là, il n'y a pas de réponse toute faite. En général, on essaie de se fixer des guidelines bien précises. Les guidelines, ce qu'on s'est fixé, c'est tout ce qui est haute disponibilité et sécurité avancée, ça va dans la version enterprise. Le reste, on met ça dans la version open source. Voilà. Et pendant très longtemps, d'ailleurs toujours aujourd'hui, je pense qu'il y a la moitié des effectifs de la société qui travaillaient sur la version open source, l'autre moitié sur la version enterprise. Donc c'est il n'y a pas de split en faveur de la version enterprise ou je sais pas quoi. Hein, c'est vraiment la version open source est tout aussi importante finalement, vraiment. Donc nous on s'est fixé des guidelines, voilà. Et après à partir de quoi on élabore les fonctionnalités, il y a pas mal de sources différentes. Il y a déjà le feedback de la communauté, je pense que c'est le plus important. Vraiment, ça, c'est un des intérêts d'avoir un logiciel en mode open source collaboratif, c'est qu'on a beaucoup de feedback de la communauté qui viennent de diverses sources, Slack, GitHub, les forums, peu importe. Et ça, ce feedback, ça vaut de l'or, hein, vraiment. C'est super important de savoir l'analyser et de savoir décrypter ce qu'il y a derrière, quels sont les besoins qu'il y a derrière. Et c'est notre première source d'information pour pouvoir élaborer des fonctionnalités futures. Évidemment, les relations qu'on a avec nos clients, c'est une autre source d'information super importante. C'est-à-dire, est-ce que nos clients ont des besoins qu'on ne couvre pas aujourd'hui? Lesquels? Donc ça, c'est un autre point super important. Et puis après, il y a le marché, l'écosystème. Et puis aussi, dans l'équipe, c'est important d'avoir un côté créatif qui ne vient pas d'un besoin exprimé, quoi. Ça, c'est bête, mais on ne peut pas que se baser sur un besoin qui est exprimé très concrètement. C'est un peu faux. En général, les besoins qu'on va exprimer, ils sont pas suffisants en général. Voilà, en tout cas, c'est ce que je pense. Il faut aller à un point, enfin un cran après les besoins que les clients ou la communauté expriment, si vraiment on veut être innovant. Voilà. Et c'est un peu les guidelines qu'on suit, quoi, au jour le jour.
C'est d'autant plus vrai qu'en arrivant en 2015, c'est juste le moment où tout un écosystème a explosé, où tout a changé. Il y a eu l'arrivée de Docker, il y a eu l'arrivée de Kubernetes. Qu'est-ce que ça fait d'avoir le paysage technologique qui est complètement changé quand on se lance justement? Est-ce que ça fait peur? Est-ce que c'est plutôt... il y a des opportunités?
Ah bah là, c'était un peu la conquête de l'Ouest. Hein.
Ouais. Concrètement. Je veux bien croire.
Réellement. Et là où c'était... et où c'est chouette, toujours, c'est qu'on en fait partie, quoi. On n'est pas spectateur de ça. Et je pense que c'est ça qui a attiré tous ceux qui sont à Traffic Labs aujourd'hui. C'est quelque part, cette aventure des microservices, des conteneurs, etc., on en fait partie, quoi. Et on fait partie de ceux qui sont derrière qui sont derrière les fourneaux et qui font tourner la boutique, quoi, quelque part. Et ça, c'est vraiment super excitant.
D'accord, donc c'est le challenge aussi qui fait la motivation pour se dépasser.
Oui, parce qu'en gros, on fait partie des sociétés qui innovent pour faire bouger cet écosystème-là.
Ouais.
Tout autant que d'autres. Et se dire ça, c'est chouette, quoi. C'est vraiment excitant, je trouve, quoi, de se dire, on a aidé à construire ce truc-là, c'est sympa.
Clairement. Comment est-ce que tu as formé ta première équipe? Est-ce que tu as pris des gens qui étaient déjà des mainteneurs de trafic ou ça s'est fait différemment?
Alors, c'est des gens que je connaissais bien déjà. Dans l'ensemble, ils n'étaient pas forcément... Alors, certains étaient mainteneurs et certains n'étaient pas forcément mainteneurs, mais ils connaissaient bien le produit. Ça, c'est clair. Et c'est des gens avec qui j'avais déjà travaillé. Voilà, donc ça, c'est comme ça que j'ai choisi l'équipe de base, qui est toujours là, hein, d'ailleurs. Et ils sont toujours à fond sur le projet, donc c'est chouette. Mmh. Et de plus, c'est clair qu'on a recruté plusieurs mainteneurs du projet au fil de l'eau, quoi. Hein. Ou plusieurs personnes qui étaient dans la communauté, qui n'étaient même pas forcément mainteneurs. Mais clairement, le fait d'avoir une large communauté, ça a joué un rôle très important dans la façon dont on s'est structuré dans la société, quoi. Vraiment, c'était une composante primordiale. Et un exemple, c'est qu'on est une société complètement distribuée, tout comme l'était la communauté de trafic, le projet open source, avant qu'il y ait une société. C'est-à-dire que c'est, bah voilà, c'est une communauté internationale, il n'y a pas de pays, il y a juste l'anglais et terminé. Et ben, au final, on a grandi comme ça dans la société. On est une société avec des gens qui sont à divers endroits, dans divers pays. Alors bien sûr, en Europe, en France, parce que ben, le projet est né en France avec moi, bon... Voilà, mais il y a des gens aux US, il y a des gens au Brésil, il y a eu des gens en Afrique du Sud. Enfin voilà, il y a vraiment, il y a pas de limite quoi. Voilà, donc on a grandi de manière internationale grâce à la communauté, mais parce qu'on a continué en fait le chemin qu'avait tracé la communauté au départ quoi, tout simplement.
Alors c'est super chouette, mais quand tu crées une boîte, donc tu crées la culture de la boîte qui va avec, et donc tu parles de cette boîte distribuée, très probablement remote aussi.
Tout à fait.
Bien avant les problèmes qu'on a connus avec la pandémie, oui. Ça a dû aider pendant cette période aussi. Et quels sont les challenges? Je sais pas si dans le monde du dev, c'est plus habituel, on va dire, d'avoir des gens en remote, en tout cas avant la pandémie que maintenant, mais comment décider justement de créer une boîte et de se dire bah, on est distribué et puis on n'a pas de bureau et puis on travaille de chez soi et d'où est venue les décisions que tu as prises culturellement pour la société?
Alors c'est venu au fil de l'eau, hein. Alors on n'était pas en mode pas de bureau comme certaines sociétés, on avait quand même des bureaux, néanmoins dès quasiment le début, les guidelines, ça a été bah, vous venez au bureau quand vous voulez, si vous voulez. Voilà, il n'y a pas de règle. Et la seule règle qu'on avait, je me rappelle, il y a quelques années, aujourd'hui, ça n'a plus de sens, mais la seule règle qu'on avait, d'ailleurs, c'est par contre, le vendredi, c'est télétravail obligatoire. On n'avait qu'une seule règle, c'était ça. Et alors, ça peut paraître super contre-intuitif, parce que d'habitude, c'est exactement l'inverse. C'est, je ne sais pas, lundi, on vient au bureau de manière obligatoire. Là, c'était l'inverse. Pourquoi ? Parce qu'on voulait se réserver au moins une journée dans la semaine où les gens qui n'avaient pas la possibilité de venir au bureau parce qu'ils étaient dans une autre ville, dans un autre pays, on avait au moins les mêmes outils, on était sur la même, sur un pied d'égalité, avec toutes les personnes qui étaient réellement en remote tout le temps, voilà. Donc les personnes qui avaient accès à un bureau, ils devaient faire du télétravail de façon obligatoire pour qu'on soit tous sur un pied d'égalité, pour pas que il y ait trop de réunions informelles entre ceux qui étaient au bureau et les autres et pas les autres, etc. Donc c'était des challenges un peu différents de ce qu'on peut rencontrer habituellement, mais voilà. Donc c'est venu assez, au final, c'est venu assez naturellement. Parce qu'on a recruté des gens là où ils étaient et on les faisait pas déménager en France, non, ils vivaient là où ils étaient, donc voilà, c'est comme ça. Donc oui, effectivement, quand la pandémie est arrivée, ben nous, opérationnellement, ça a été un non-événement, parce que tout le monde était déjà complètement habitué à travailler comme ça. Là où ça a été un vrai événement, comme pour tout le monde, c'est au niveau social, parce que par contre, on peut pas faire une boîte en remote, en tout cas je crois pas, sans que personne ne se voit jamais, voilà, réellement. Et ça, pour moi, ça me paraît très difficile. C'est de l'ordre de l'impossible. Donc, je sais que pendant très longtemps, avant la pandémie, en fait, on avait pour tradition, entre guillemets, de se retrouver plusieurs fois par an à des conférences. Il y avait plein d'occasions pour ça, la DockerCon, la KubeCon, etc. Et on se retrouvait à droite, à gauche, dans le monde, très régulièrement. Et à ce moment-là, bah, c'était l'occasion de se voir. On se voyait 3-4 jours. On faisait la fête ensemble. Et voilà, c'était très important, super nécessaire pour continuer à travailler ensemble en remote. Là, aujourd'hui, avec la pandémie, c'est beaucoup plus complexe. Typiquement, toute l'équipe s'est retrouvée, enfin, même pas toute l'équipe d'ailleurs, on va dire une grande partie de l'équipe s'est retrouvée pour la première fois seulement au mois d'octobre, hein, depuis le début de la pandémie. Donc, c'est, enfin, voilà, pendant un an et demi, on n'a pas trop pu se voir à cause des interdictions de voyager, à cause de plein de choses. Et là, oui, ce modèle distribué, il est quand même mis à mal par l'impossibilité ou la très grande difficulté de se retrouver réellement tous quand on est vraiment distribué dans le monde entier. Et au final, ça, c'est quand même pas simple. aujourd'hui. Donc, ouais. C'était beaucoup plus simple avant la pandémie. Je veux dire, le modèle distribué est vraiment, avait vraiment, je trouve, de l'avenir, clairement, avant la pandémie. Là, pendant la pandémie, c'est plus dur à tenir sur le long terme. Bah parce que sans se voir, forcément, c'est beaucoup plus difficile de maintenir un climat, je sais pas, agréable pour travailler. C'est super important de se voir de temps en temps, quoi.
Ouais, est-ce que tu as trouvé une manière de compenser un peu ce manque de vie sociale ou de possibilité d'avoir des événements pour se retrouver?
On a essayé beaucoup de choses. Hein. On a fait comme tout le monde, je pense. On a essayé de faire des événements online. Voilà. Mais au final, on s'est rendu compte assez rapidement que on ne pouvait pas copier la réalité juste en passant les choses online. On ne pouvait pas dire, tiens, on fait un café online ou on prend une bière online ou peu importe ce qu'on fait, quoi. Mais en gros, on ne peut pas juste copier-coller et dire, bah tiens, ce qu'on faisait en vrai, on va le faire online et puis ça va être bien. Non, c'est pas vrai. Ça marche pas. Les gens sont... Et normal. Enfin, c'est pas super motivant de se dire on boit une bière online si c'est pas spontané. Donc, ouais, au final, on a dû être assez inventif. On a trouvé d'autres choses. Mais en gros, ce qui est important, c'est que c'est juste différent. Voilà, on ne copie pas ce qu'on faisait avant en mode remote ou en mode online. On fait des choses différentes. Mais autant dire que la dernière fois quand on s'est retrouvé il y a un mois là, c'était à Lyon d'ailleurs, quand on s'est retrouvé presque toute la société en vrai, ça a été la semaine a été difficile.
Je vais pas demander les détails.
Tout le monde avait envie de faire la fête.
Ouais, j'imagine bien. Une autre question que je me pose, si demain quelqu'un est poussé dans une telle aventure, tu as décidé de faire ta société donc en remote, ça veut dire des gens n'importe où sur la planète, peu importe où ils sont. Administrativement, ça pose quelques problématiques. Alors, je sais que depuis la pandémie, comme c'est plus répandu, il commence à y avoir beaucoup plus de choses qui se créent pour faciliter ça, mais peut-être que c'était pas là quand toi, tu l'as décidé.
C'était carrément pas là, et ça a carrément toujours été un peu galère. En fait, c'est le vrai problème, c'est ça, c'est au niveau administratif. Et pour être très concret, parce que je pense que les gens ne savent pas forcément comment ça se passe, mais quand on est une société dans un pays, on ne peut pas du tout embaucher quelqu'un dans un autre pays facilement. Hein. C'est vraiment pas le cas. Pourquoi ? Parce que en fait, on doit payer des taxes, ce qui est bien normal, hein, mais on doit payer des taxes dans le pays dans lequel la société, l'employé est salarié. Donc si je suis une société en France et que je veux embaucher un Allemand, je dois payer des taxes en Allemagne. Si je veux embaucher quelqu'un qui est en Grèce, je dois payer des taxes qui est en Grèce, et c'est pareil partout. Mais le problème, c'est que pour ça, il faut souvent avoir une société dans le pays du salarié. Donc en fait, on se retrouve à être contraint d'ouvrir des filiales partout, si on veut faire comme ça, ce qui est juste impossible. Enfin, quand on est une société de 10 personnes ou 40 personnes, on ne peut pas avoir 30 filiales. Ça ne marche pas, c'est pas viable. C'est trop coûteux, trop complexe à gérer. Donc au final, c'est pas simple. On ne peut pas salarier des gens comme ça. Donc on peut passer par des prestations, des prestataires de services, des trucs comme ça, mais pas dans tous les pays. On peut passer par des sociétés qui font l'intermédiaire, pas dans tous les pays. Franchement, c'est un peu complexe. Donc on se débrouillait un peu comme on pouvait. En gros, ça nous contraignait aussi sur les pays dans lesquels on pouvait embaucher ça, jusqu'à même encore aujourd'hui, mais moins aujourd'hui. Là aujourd'hui, les choses ont changé. Pourquoi ? Parce que effectivement, avec la pandémie, il y a eu une petite accélération sur ce besoin. Et effectivement, il y a des sociétés qui ont vu juste. Et au final, franchement, dès qu'on monte une société distribuée, on se rend compte que c'est un vrai marché. Les sociétés qui ont vu juste, c'est de se dire, en fait, on va faire l'intermédiaire dans la majorité des pays du monde, en tout cas dans plein de pays. Nous, on va faire l'intermédiaire au niveau juridique, au niveau administratif, au niveau des taxes, etc. etc. Mais vous pouvez vous adresser à nous et vous pouvez embaucher dans n'importe quel pays. Et donc, il y a plusieurs sociétés qui sont apparues, qui ont fait ça, remote et autres. Et aujourd'hui, c'est clair que ça permet à une petite société, sans créer des filiales partout, d'avoir des employés beaucoup plus facilement qu'avant, quoi. Voilà.
Ça t'a aidé ou c'était trop tard pour toi ?
Ah non, non. Alors aujourd'hui, ça m'aide. Évidemment, il y a quelques années, ça n'existait pas. Et du coup, on se débrouillait autrement. Mais c'était beaucoup plus contraignant pour nous, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu plein de personnes qu'on n'a pas pu embaucher à cause de ça. Voilà, tout simplement. Donc, on ne se rend pas compte, mais le côté administratif n'est vraiment pas si simple que ça au niveau international. Mais ne serait-ce qu'au niveau européen, hein. Enfin, je veux dire, on ne se rend pas compte non plus, mais je veux dire, ce n'est pas possible au niveau européen. C'est-à-dire, si je veux aujourd'hui embaucher quelqu'un qui est en Italie, non, ça ne sera pas possible. En tout cas, sans créer de filiale en Italie, c'est compliqué, ou alors sans passer par une société intermédiaire, etc. etc. Donc, c'est, voilà, même en Europe où on a un marché commun, où on peut s'imaginer que ça serait simple, ça ne l'est pas du tout. Donc, créer une société vraiment distribuée, ça apporte plein d'avantages. C'est plus facile de recruter, c'est intéressant au niveau culturel, parce qu'il y a un vrai côté multiculturel et ouvert, mais ça a aussi des inconvénients. Les différentes time zones, c'est pas si simple à gérer, et au niveau administratif, c'est pas si simple à gérer, évidemment, non plus.
Tu as choisi donc de devenir CEO de ta société. Du coup, est-ce que tu as dû laisser de côté la technique ? Parce que j'imagine qu'un CEO, il n'a pas trop le temps de mettre les mains dans le code tous les jours. Alors qu'à la base, c'est ton projet. Tu as dû quoi ? Lâcher du lest, j'imagine ?
Ah bah oui. Et ça, en fait, c'est l'histoire de ce projet, pour moi en tout cas. De mon point de vue, c'est l'histoire de ce projet. C'est dès le premier jour, mais il a fallu que je commence à lâcher du lest. Tout simplement. Voilà. Au départ, c'était un projet que j'ai construit de A à Z complètement seul. Et puis ben, après, il y a eu Vincent qui est arrivé. Forcément, il a commencé à m'aider. Ben, voilà, il a pris des responsabilités sur certaines parties, etc. etc. Et petit à petit, ben, il faut lâcher du lest. Si on veut, en tout cas, que le projet grossisse, voire explose, c'est juste la seule solution. On ne peut pas ne pas lâcher de lest, et c'est nécessaire. C'est vital, et surtout si on crée une société à côté et qu'on veut la gérer, ça serait pas possible de continuer d'avoir un rôle très technique ou en tout cas dans la profondeur, hein, je veux dire, tout en gérant la société, ça serait pas souhaitable, en fait. C'est plus mon rôle aujourd'hui, quoi. Donc évidemment, aujourd'hui quand même, j'ai une vision technique, et je reste quand même à la direction technique, on va dire, de la société. Mais clairement, je ne fais plus de code du tout depuis pas mal de temps déjà. Et c'était nécessaire. Voilà, ça c'est un truc il faut être prêt à faire ça. Donc c'est intéressant parce qu'on apprend plein de nouvelles choses, mais clairement c'est un move, quoi, dans la vie.
Ouais. Donc tu as créé le MVP, et puis maintenant, ouais, t'es plus responsable de la stratégie, de la vision à long terme du produit. Alors, du produit ou des produits maintenant, comment t'as décomposé ça ? Donc tu dis c'est une petite structure, je crois que vous êtes à peu près 40.
Ouais, tout à fait, ouais, on est 40.
Donc, comment ça vient après, comment on structure la société ? Normalement, un produit doit avoir un product owner, ou comment ça marche ? Comment tu as découpé ça ? Est-ce que pour l'instant, c'est encore quelque chose de communautaire, même à l'intérieur de la société ? Ou est-ce que déjà, il y a des branches différentes, certains qui s'occupent du mesh, certains qui s'occupent de l'Ingress, etc., etc.
On a changé de structure à peu près 50 fois, et on change la structure de l'équipe très régulièrement en fonction des besoins. parce qu'on se rend compte au bout de 6 mois ou d'1 an que ça fonctionne pas très bien, qu'il y a des lenteurs ou autres. Donc on adapte tout le temps hein, ça. Donc je peux parler de la structure d'aujourd'hui, mais ça sera probablement pas celle de dans 1 an. La structure aujourd'hui, on a un product manager qui gère, qui lui est vraiment responsable de l'ensemble des roadmaps des produits. Bon, aujourd'hui, on n'a qu'une personne. Après, à l'avenir, on en aura sûrement plusieurs. Mais vraiment, voilà, le product manager est responsable de la roadmap, enfin des roadmaps, des produits. Et donc, cette personne doit avoir une bonne vision du marché et une bonne vision de notre mission et de nos moyens, etc., etc. Quoi. Voilà. Donc, c'est pas une personne qui code à proprement parler, mais c'est une personne qui a quand même une très bonne vision technique de nos produits, quoi. Et cette personne, oui, c'était un des premiers mainteneurs, Manuel Zapf, qui est allemand, et c'est un des premiers mainteneurs de trafic, donc il connaît super bien l'écosystème, effectivement. On a un VP Engineering qui, lui, est en charge vraiment de gérer les équipes au quotidien et de les structurer, de faire la communication transverse, de synchroniser tout le monde. Vraiment, c'est le côté opérationnel, on va dire, de la roadmap hein, cette fois. Il coordonne l'ensemble des équipes et on a plusieurs équipes. Aujourd'hui, on a décidé de faire des équipes par feature, en gros, des feature teams. Et elles sont dans l'équipe engineering. Chaque équipe est vraiment responsable de chaque feature, mais de A à Z, c'est-à-dire de la conception jusqu'au run. Voilà, avec tout ce qui va entre les deux. Donc on n'a pas des équipes en silo, c'est-à-dire une qui fait le code et une autre qui run le projet sur une plateforme ou je ne sais pas quoi. Non, on essaye d'avoir l'ensemble de la feature qui est fait par la même équipe, les mêmes personnes. C'est le côté... Enfin, c'est ce qu'on appelle faire du DevOps, tout simplement. Donc voilà. Et un autre point important sur lequel on s'est basé aussi depuis, je pense, les premiers jours quasiment, le pair programming est généralisé. C'est-à-dire qu'on fait tout en pair programming. Voilà, absolument tout. Et donc à chaque fois, il y a deux personnes qui travaillent sur qui codent en même temps. Ça fait des années que c'est comme ça. Hein. Donc ça n'empêche pas de faire des code reviews, mais typiquement ce qu'on avait mis en place, je me rappelle au début, c'est que quand on fait une pull request en pair programming, on a besoin de moins de code review, donc genre 2 au lieu de 3 par exemple, je dis juste un exemple hein, parce qu'on estime que ce qui a été fait en pair programming, c'est quelque part c'est encore mieux qu'une review quoi. quelque part. Donc ouais, on a suivi ces quelques principes, mais aujourd'hui voilà, l'équipe est structurée avec product manager, un VP engineering et plusieurs équipes avec des chefs d'équipe, on va dire, qui gèrent la partie, on va dire, plus humaine et plus au jour le jour quoi, organisationnelle. Et voilà, avec des équipes qui sont assez qui voit l'ensemble du cycle, quoi, et qui gère l'ensemble du cycle de chaque fonctionnalité. Voilà.
Et donc, ça, c'est un domaine, j'imagine, qui t'est très familier, puisque tu étais développeur et que c'est tout le monde du développement. Il y a un autre point à adresser, qui est la stratégie commerciale, qui, elle, ne doit pas être évidente quand on est développeur et qu'on monte sa société, parce que j'imagine que les clients ne viennent pas à toi directement magiquement et que tu es quand même obligé de créer toute cette stratégie commerciale autour du produit. C'est quelque chose qui est compliqué à faire, difficile.
Ça fait partie des choses que j'ai apprises avec le temps et que j'apprends toujours, enfin, clairement. Je suis pas du tout un spécialiste mais bien sûr, enfin, il faut absolument le mettre en place, c'est vital, tout simplement. Donc, il faut s'entourer de gens qui sont experts là-dedans, qui connaissent ça. Il faut se faire conseiller. Donc, ça peut aussi, par exemple, être le rôle d'investisseurs, des investisseurs. Hein. Ils peuvent être... c'est aussi leur rôle, c'est de conseiller sur ce sujet. Typiquement, nous, on a une équipe marketing, une équipe commerciale. Tu disais que les clients ne venaient pas toquer à notre porte. Effectivement, l'équipe marketing, c'est son rôle, doit trouver les clients potentiels. C'est le rôle vraiment de l'équipe marketing, entre autres, hein, mais un de ses rôles, c'est ça, c'est de dégoter les clients potentiels, de les faire mûrir et après d'adresser ces clients potentiels à l'équipe commerciale qui, elle, va essayer de les convertir en clients finaux. Aujourd'hui, on a toute une petite machine qui est en place avec, on commence à avoir du monde, hein, à ce niveau-là aussi. L'équipe marketing, ça doit être 6-7 personnes aujourd'hui. Et l'équipe commerciale, ils sont plusieurs aussi. Hein, aux US et en France, ils sont 4 aujourd'hui, je crois. À l'heure d'aujourd'hui, ils sont 4. Donc voilà, aujourd'hui on est structuré comme ça et y a toute une machine qui a été mise en place pour permettre de vendre Traffic Enterprise en fonction des clients potentiels que l'équipe marketing aura réussi à faire mûrir.
Quand tu es arrivé, Kubernetes était à peine naissant et puis au fil du temps, ça commence à devenir l'outil que n'importe quelle entreprise utilise. Au début, c'était des personnes qui avaient besoin d'outils pour peut-être tacler la concurrence. Et aujourd'hui, ça atteint la large adoption. Est-ce que tu vois une différence au niveau des clients, de trafic? Parce que au début, c'était peut-être des entreprises très novatrices avec des équipes en tout cas qui aimait bien être cutting edge. Aujourd'hui, ça commence à plus être des entreprises qui ont des besoins d'entreprise et pas forcément avec des équipes qui sont à rechercher la dernière nouveauté dans l'écosystème, mais plutôt avoir besoin plus de stabilité, de choses qui existent. Est-ce que tu le sens, cette tendance, au niveau des sociétés qui s'adressent à toi pour utiliser Traffic?
Ouais, tout à fait. Ouais. Bon, on a vu... Vraiment, on a vu l'ensemble du cycle, hein, parce que encore une fois, quand Traffic a débuté, Kubernetes n'existait pas, et du coup, je me rappelle que j'ai fait la première intégration de Traffic avec Kubernetes il y a bien longtemps, et Kubernetes était loin d'être stable à cette époque-là, mais par contre, c'était déjà un projet très viral, donc voilà. Et oui, effectivement, il y a 5 ans, il y avait aucune société qui utilisait Kubernetes, déjà parce que c'était juste très récent. Aujourd'hui, quasiment toutes les sociétés auxquelles on parle ont à minima pour projet de tester ou ont déjà testé Kubernetes, quoi. Voilà. Après, par contre, on n'en est quand même pas au stade où la production tourne sur Kube, quoi. Non, on n'en est vraiment pas à ce stade-là. Mais comme tu le dis, c'est pas seulement les sociétés cutting edge qui utilisent Kube aujourd'hui. C'est pas réservé à une certaine élite technique ou je sais pas quoi. Non, n'importe quelle société s'y met ou veut s'y mettre ou a déjà commencé à migrer sur Kube. Et c'est clairement le sens de l'histoire, quoi. Mais bon, il y a encore énormément de challenges à migrer sur Kube. La complexité de l'écosystème est juste un vrai bloqueur pour plein de sociétés ou un vrai pain point à minima. C'est vraiment pas si simple que ça, quoi. Même si c'est un standard de facto, c'est pas une partie de plaisir pour plein de sociétés non plus, quoi.
Et où en est du coup le produit aujourd'hui? Donc c'était à l'origine un reverse proxy, tu l'as étendu, il y a d'autres fonctionnalités, il y a peut-être d'autres produits aujourd'hui, comme j'ai dit, il y a Mesh qui est apparu il y a un peu plus d'un an, je crois.
Tout à fait, ouais. Alors on continue de suivre la philosophie, un produit reste simple et fait les choses bien, à la Unix, quoi. On n'a pas envie que Traffic devienne un truc un peu Frankenstein ou ou avec qui fait trop de choses, pas bien. Donc, Traffic, c'est resté un reverse proxy ou un ingress controller ou un, on l'appelle comme on veut. Ça a des fonctionnalités d'API management, d'API gateway aussi, mais c'est, tout ça, c'est dans le même monde, hein, on va dire. Donc, on a vraiment, on continue vraiment de se focusser là-dessus avec Traffic et il y a encore plein de choses à faire. C'est sans fin. Effectivement, on a parlé de, tu as parlé de Mesh. C'est un produit qu'on a sorti il y a quelques temps devant l'essor des services Mesh. Personnellement et la société, on trouvait que à ce moment-là, les services Mesh, le monde des services Mesh était vraiment trop complexe. Donc, même si c'était ça venait de besoins existants, de besoins réels. Je donne un exemple, mais les possibilités de routage entre services, de routage avancé, avoir un circuit breaker entre deux microservices dans un cluster, ce genre de choses, ça c'était un vrai besoin, et c'est un vrai besoin. Mais néanmoins, les solutions qui ont été proposées, comme Istio par exemple, nous on les trouvait vraiment, beaucoup trop complexe, quoi. Et c'était vraiment un bazooka pour tuer une mouche, comme on dit. Donc c'est pour ça qu'on a voulu proposer un service mesh complètement différent. C'était pas parce que tout le monde faisait son service mesh et que c'était à la mode. Non, en toute honnêteté, je voulais pas aller sur ce terrain-là pendant très longtemps, à moins qu'on trouve une vraie solution différente. Voilà, c'est réellement ce qui s'est passé. C'est que pendant des mois, on n'est pas allé sur ce terrain-là parce que c'était pas notre truc, quoi. On trouvait pas forcément la vraie valeur ajoutée. Et après, on a eu une idée pour faire des choses différemment. Et typiquement, on n'a pas suivi le trend qui consistait à faire des sidecar proxy comme architecture de service mesh, pour plein de raisons, parce que au niveau ressources, c'était vraiment énorme. Un reverse proxy par application, c'est loin d'être simple. Ça demande ça demande de faire des injections de règles IP tables dans chaque pod. C'est quand même pas, c'est loin d'être transparent, quoi. Enfin, au final, au niveau infrastructure. Donc, on est parti sur une architecture plus simple avec des reverse proxy, mais par nœud Kubernetes plutôt, donc mutualisé entre plusieurs applications. Et voilà, ces reverse proxy font office de routeur applicatif entre chaque microservice. Et avec ça, on peut arriver à avoir 80% des fonctionnalités d'un service mesh, mais avec 20% de la complexité, quoi. Donc, voilà, c'est vers ça qu'on est parti. Mesh, on est parti vers. On a aussi sorti Pilot. C'est un produit qui est un peu différent, qui est SaaS, lui. Donc, c'est une plateforme qui permet de connecter les serveurs Traffic qu'on héberge. Et l'intérêt, c'est vraiment d'avoir du monitoring sur ces serveurs juste en un clic. On n'a rien à faire, en fait. On registre ces instances Traffic avec Pilot et en un clic, on a un dashboard, on a de l'alerting, on a de l'observabilité qui ne coûte rien de manière très simple. Et c'est ce qu'on on voulait mettre ça en place. Et en fait, c'était clairement, c'est une première étape vers quelque chose de beaucoup plus important dont on va parler bientôt. Et qui sera la prochaine étape de tout ça, quoi.
Ok. Alors la simplicité, ce qui est très bien, j'ai toujours trouvé que passer à Cube, c'était déjà une grosse marche à franchir. Je suis pas sûr que, voilà, techniquement, une équipe qui doit passer à Cube ait suffisamment de temps pour bien appréhender entièrement le produit et bien le comprendre. Si en plus on doit rajouter des couches et on est obligé de rajouter des couches. Aujourd'hui, si on veut bien faire les choses comme du service mesh, si on n'a pas un produit qui est simple, il y a de fortes chances qu'on l'utilise mal, pas efficacement, ou qu'on le configure mal et que finalement, on fasse tout l'inverse de ce qu'on voulait à la base. Les challenges à venir, alors, quels sont-ils ?
C'est une bonne question. Nous, notre ADN, ça a toujours été l'automatisation avec la simplicité, quoi, en suivant une valeur très forte de simplicité. Pourquoi ? Je donne juste un exemple d'où ça vient, hein, mais ça vient du projet Traffic en lui-même. À la base, Traffic, c'est un reverse proxy qui est intégré à diverses plateformes de microservices. Et le gros intérêt de Traffic, c'est d'automatiser, on va dire, la génération des règles de routage et de déléguer la configuration dans les orchestrateurs. En gros. Mais du coup, c'est parti d'où ? C'est parti du fait que les reverse proxy, ça a toujours été une pièce assez obscure de l'infrastructure qu'un développeur n'avait pas forcément envie de toucher. En tout cas, c'est comme ça que ça se passait dans les sociétés dans lesquelles j'étais. Ouais, c'était une pièce de l'infrastructure qui était complexe, et enfin, c'était pas notre domaine, quoi. Enfin, c'était pas le domaine d'un développeur lambda. L'idée de base, ça a été de dire, bah, ok, ouais, mais bon, là, pour le coup, on va vers un monde où le développeur, il est obligé de maîtriser ça quelque part. Et avec les microservices, il est obligé d'avoir sans avoir la connaissance complète, il est obligé de au moins de pouvoir le configurer, même s'il ne comprend pas exactement tout ce qu'il y a derrière. Et donc, Traffic, ça a été un premier pas vers ça. C'est un premier pas vers l'automatisation de quelque chose qui est complexe. Là, en gros, c'est maîtriser un outil dans un domaine d'expertise dans lequel on n'est pas expert, quoi. Voilà. Aujourd'hui, bah, c'est devenu standard. Aujourd'hui, on configure des ingress contrôleurs sans savoir du tout comment ça marche à l'intérieur, même si au fond, c'est un reverse proxy ça fait plein de choses complexes. Donc c'est ça notre ADN, hein, on veut continuer là-dessus. Aujourd'hui, on se dit que, comme tu l'as dit, Kubernetes, c'est devenu un standard de facto dans l'industrie, dans l'infrastructure. Bon, aujourd'hui, oui, il n'y a plus grand monde qui imagine ces plateformes sans Kubernetes, les plateformes de demain, même si la migration est loin d'être terminée. Et du coup, c'est quoi la prochaine étape ? C'est ça qu'on se pose comme question. La complexité des plateformes reste le bloqueur number one. Et surtout, la complexité devant la mise à l'échelle de ces plateformes, la complexité devant quand on cherche à scaler ces plateformes, et notamment, un des points clés, c'est les clusters Kubernetes. Nous, on pense que c'est un des points clés. C'est relativement simple de déployer un cluster Kubernetes et de le gérer. Ça ne devient pas la même histoire quand on en a 10, 100 ou 2000 à gérer. Et au final, les problématiques qu'on avait avec les microservices il y a 5 ans, on se retrouve à les avoir quelque part avec les clusters Kubernetes aujourd'hui ou demain. Et c'est ce problème où on pense qu'à l'avenir, ça va devenir un énorme bloqueur. C'est ce problème où on pense que c'est un des plus gros challenges des années à venir. C'est, on va devoir être capable de gérer des clusters Kubernetes de manière complètement distribuée. Parce qu'il y a des besoins pour ça, il y a des besoins vers ça, il y a des besoins d'avoir des infrastructures qui sont... qui passent à l'échelle rapidement, qui sont distribués au niveau international. Et c'est un besoin réel. Et il va falloir des outils pour ça. Donc en gros, le challenge de demain, à notre avis, c'est le multi-clustering.
Ouais. OK. Je te rejoins assez là-dessus. Ça fait... On a été le début de la fédération de clusters, et puis en fait ça n'a jamais abouti. Et si aujourd'hui le cluster Kubernetes ça devient le building block comme l'était la VM il y a quelques années encore, ça veut dire que bah il y a tout un écosystème à construire dessus.
Exactement.
Merci Emile pour tout ça, c'était super chouette.
Merci Stéphane de m'avoir reçu, la discussion c'était super intéressant comme discussion.
Retrouvez Emile sur Twitter @EmileVauge et Traffic Labs sur traffic.io. Comme toujours, n'hésitez pas à parler de cet épisode autour de vous, à vos amis et sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.